France Inter.
Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Aujourd'hui, une émission spéciale en public au Grand Contrôle à Paris à l'occasion des Nuits de la Lecture, organisée pour la 5e année par le Centre National du Livre. Le thème d'aujourd'hui, imaginer la ville de demain, ou comment la littérature de genre, qu'elle soit horrifique, dystopique ou cyberpunk, s'empare de l'urbanisme pour en faire le miroir de nos crises contemporaines.
France Inter, Radio-Canada, RTS La Première, RTBF La Première, Au Livre, etc., Lilia Hassel.
Nous recevons d'abord Jean-Baptiste Delamo, lauréat du prix Goncourt du premier roman en 2009. Dans son dernier livre, La Nuit Ravagée, publié chez Gallimard, il nous ramène dans les années 90 à Saint-Auch, une ville fictive du sud-ouest située en banlieue toulousaine. À travers le lotissement des Genêts et l'inquiétante impasse des Ormes, il sonde les failles de l'utopie pavillonnaire. Entre hommage au cinéma d'horreur et autopsie sociale, il transforme une maison abandonnée en un outre-monde où les rêves et les illusions d'une génération finissent par se fracasser. Nous accueillons également Laurent Godet, prix Goncourt 2004. Après son remarqué Chien 51, il a publié à l'automne la suite, Zem, chez Actes Sud. Dans ce diptyque d'anticipation, il imagine une cité-monde, Maniapol, qui pousse la logique de la ville de demain jusqu'à l'asphyxie. Dans cet urbanisme de la ségrégation, la survie est une question de géographie. Il y a la zone 1 protégée par un dôme climatique et les zones périphériques où les rebuts subissent des pluies acides orangées. Entre les pop-drones publicitaires et les troupeaux d'animaux pucés, Laurent Godet imagine une ville-entreprise qui a tué l'imprévu pour ne laisser place qu'à une gestion comptable des existences. Et enfin, j'aurai le plaisir d'accueillir Audrey Plenet. Dans Syntonia, parue aux éditions du Bélial, elle imagine une Venise futuriste devenue une ville-tige s'élevant vers le ciel. Nous sommes dans un monde où les États-nations ont disparu, ils ont été remplacés par des cités-États. Et on suit la fuite de Talia, membre d'une guilde de mercenaires, unie par le diapason. Le diapason, c'est une connexion biologique qui permet aux mères de piloter les muscles et les émotions de leurs filles au nom d'une harmonie totale. Nous parlerons avec nos trois auteurs de leur conception de la ville de demain. Et si vous avez quelques questions dans le public, vous aurez l'occasion de les poser. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est parti.
Au Livre, etc.
Jean-Baptiste Delamo, Laurent Godet, Audrey Plenet, bonjour à tous les trois.
Bonsoir.
Bonjour.
Bonsoir.
Dans vos romans, la ville est un outil de ségrégation. Laurent Godet, vous décrivez une Maniapol divisée par zone. Audrey Plenet, votre cité-tige de Venise s'élève vers le ciel pour fuir un sol qui est pollué et dévasté. Jean-Baptiste Delamo, vous sondez l'exclusion plus sourde d'un lotissement pavillonnaire qui cache ses monstres derrière des haies impeccables. Et finalement, tous les trois, vous parlez d'aujourd'hui. Selon vous, la ville est-elle devenue une machine à trier, à ne pas se rencontrer, Laurent Godet?
Oh ben je crois que ça a été un enjeu permanent pour toutes les villes, à toutes les époques. La question de inclusion-exclusion, qui a le droit de rentrer, qui a le droit de sortir, a toujours traversé le destin des villes. C'est vrai que là, puisqu'on est dans des dystopies, peut-être qu'on interroge avec plus d'acuité cette question-là, parce qu'on le sait quand même bien, comme vous l'avez dit, c'est une réalité dans nos villes. Alors les frontières sont souvent invisibles, mais elles existent. Et passer de la périphérie au centre n'est pas une chose ni facile ni anodine dans beaucoup de nos villes européennes.
Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui s'aggrave ?
Bah, les inégalités s'aggravent, je pense, oui. Donc, de ce point de vue-là, absolument. C'est un enjeu, certainement, pour les villes de demain. Je crois qu'il y a, cette question-là, et la question de la, qui est d'ailleurs connexe, la question de la mobilité, de la fluidité dans la mobilité. Et quand je dis mobilité, ce n'est pas seulement le mouvement, c'est aussi la question de la rencontre, la question en fait, du compartiment. Est-ce qu'on est voué à vivre au milieu des mêmes, ou est-ce que la ville crée une chose singulière qui est un espace de rencontre à travers tout simplement la rue ? Je crois qu'il y a une vie de la rue qui est absolument fondamentale dans nos villes et qui tend à disparaître malheureusement. Oui.
Audrey Plenet, comment vous voyez les choses ? Est-ce que pour vous la ville est un espace aujourd'hui de ségrégation, de différenciation ?
C'est vrai que la ville est avant tout une façon d'organiser la répartition des individus sur un niveau très géographique, très basique. C'est quelque chose qui a toujours traversé l'organisation des sociétés. Une ville, en plus, c'est assez difficile d'en définir. La définition de l'INSEE, c'est à partir de 2000 habitants. Donc, en fait, c'est énormément d'unités d'habitat humain, en fait, hein, qui peuvent être considérées comme une ville. En science-fiction, on pense tout de suite aux villes énormes, mégalopoles, et on a toujours cette impression que c'est très dystopique et que ça va montrer les inégalités avec les plus riches qui vont vivre tout en haut, les bas-fonds qui sont très pollués ou vivent la plèbe dans des conditions difficiles. Je pense que là, c'est surtout ce qui est montré, c'est en fait que de façon inhérente dans l'organisation des sociétés humaines, il y a cette classification qui est faite selon les richesses qu'on a et dont on hérite. En fait, la science-fiction sur ces villes-là va juste pousser un curseur extrêmement loin pour montrer en fait encore plus les formes que prendrait ces ségrégations-là, sachant que voilà, c'est juste une façon de démontrer. Il y a d'autres façons également sur de l'accès à la santé, de l'accès à la technologie. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres fractures qu'on pourrait montrer. L'exemple de la ville comme terrain de jeu prospectif en science-fiction montre facilement cette séparation-là.
Et pour vous, Jean-Baptiste Delamo, est-ce que vous avez choisi les lotissements pavillonnaires que vous connaissez ?
Oui, c'est un territoire particulier. C'est plutôt une forme d'excroissance de la ville, en fait. C'est pas la banlieue immédiate, c'est un peu plus loin. C'est vraiment entre ville et campagne. Alors, en plus, moi, j'ai choisi la temporalité des années 90. Ces territoires-là, ils ont changé depuis, évidemment. Mais ces lotissements, ils ont été construits, effectivement, je pense, dans une forme d'idée de ce qu'était le vivre ensemble. Ils s'adressaient tout d'abord à une certaine catégorie de la population. Ils n'étaient pas accessibles à tous. Il fallait être en mesure d'acheter son petit lopin de terre, de construire sa maison. Donc, c'était une population essentiellement d'origine française, une famille. La famille classique, la famille nucléaire. Et cette sociologie-là, elle était très propre au lotissement dans ces années 90.
Est-ce que vous pourriez nous lire un extrait de votre livre où vous parlez précisément de cette notion de vivre ensemble ?
Les années 70-80 avaient vu l'avènement de la propriété, du chez-soi consacré, l'illusion du vivre ensemble qui s'était matérialisée dans le lotissement. Chacun pouvait désormais acheter aux promoteurs immobiliers ce dont tous avaient collectivement rêvé. Une parcelle de terrain sur laquelle bâtir des maisons aux alléchantes façades de crépi rose pêche, agrémentées de pelouses grasses, de rocailles, de murettes, flanquées de haies de laurier ou de thuya. Plus tard, on s'offrirait même de creuser une piscine et, vue du ciel, fleuriraient ces myriades d'oasis au liner bleu lagon.
Cette expression de vivre ensemble, elle est devenue complètement désuète.
Oui, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup occupé les urbanistes, notamment dans les années 60-70. Et pour ce qui est du lotissement, moi je me souviens, le lotissement dans lequel j'ai grandi avait vraiment été conçu avec des espaces qui étaient supposés être des espaces de vie commune. Il y avait des aires de jeu pour les enfants, avec des bancs installés de façon circulaire. Les terrains étaient d'abord assez ouverts sur des impasses communes aussi. Mais très rapidement, les habitants en fait, ont eux-mêmes établi des limites, bien évidemment, à travers les murets, les clôtures, les haies. Et finalement, il y avait à la fois une proximité. On savait très bien ce qui se passait chez les uns et chez les autres. On vivait tous sur un territoire relativement réduit. Et pourtant, on séparait très clairement les espaces individuels. Et il ne fallait surtout jamais intervenir dans l'espace du voisin.
Audrey Plenet, je vous vois hocher la tête.
Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a travaillé longtemps sur les questions d'urbanisme. En fait, la ville, on l'a réfléchi depuis très très longtemps. Enfin, les modèles de ville idéale, c'est quelque chose qui est très 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 ancien. Quand on avait les villes neuves qui étaient faites à la sortie du Moyen-Âge, on essayait de montrer un peu, d'organiser les flux de population, où est-ce qu'on allait avoir les marchés, donc le commerce, les gens allaient vivre, comment on allait aussi séparer parfois les personnes plus riches, plus aisées, d'autres. Enfin, on y pense tout le temps, on y pense beaucoup. On a fait les grands plans d'urbanisme, on voit encore aujourd'hui, et on vit dans des villes qui ont été pensées dans les années 70-80, il fallait construire des grands ensembles avec des grands préaux, des grandes esplanades. Et au final, ça, moi je trouve que c'est des villes qui sont assez vides parce que ces grandes esplanades ne sont pas pratiques non plus. Il y a plein de recoins sombres, les préaux et les piliers des années 80, ça ne marche pas. Donc en fait, après, l'utilisation de la ville amène une critique sur tous ces plans d'urbanisme. Et après, dans l'écriture, il y a aussi la question de est-ce qu'on va construire notre ville selon des principes un peu bien ordonnés, ou alors est-ce qu'on va finalement laisser la ville être écrite elle-même par ses habitants, avoir des villes qui se construisent de façon aussi organique, qui s'étendent de façon organique. On tombe parfois un peu dans le cyberpunk où finalement ça devient un peu cracra, hein, parce que des fois ça bouge et ça grossit un peu n'importe comment. Mais finalement, c'est avant tout aux habitants de définir ça. Et puis, on est sur, encore une fois, le contrôle de l'espace. Moi, dans Sintonia, j'ai choisi des villes tiges qui ne peuvent pas grandir, qui sont sur des espaces extrêmement limités.
Ce que j'allais vous demander, pourquoi vous avez choisi ce modèle de la ville tige ? D'où ça vient ?
En fait, c'était tout par rapport au contexte géopolitique que je voulais donner à ce futur, puisqu'on est en 2354. On sort d'une troisième guerre mondiale qui a duré 100 ans. Et donc, en fait, face à la pollution du sol, à une rupture environnementale et civilisationnelle aussi, du fait de l'utilisation d'armes pas très très propres, l'humanité se rétracte sur des unités plus facilement contrôlables où on survit ensemble et on se serre un peu dans le noir quand on a peur. Et donc, en fait, on revient sur ces cités-états qui ont été une forme de développement qu'on a beaucoup connu à d'autres périodes de l'humanité, en France, la Renaissance, l'Italie, etc. Et donc, en fait, c'était aussi pour montrer cette rétractation qui est une forme d'isolationnisme quand on est, en fait, dans l'incertitude de ce que le monde extérieur peut offrir comme menace, comme opportunité.
Laurent Godet, pour finir sur cette question justement de la ségrégation, pour vous, le vivre ensemble, c'est une utopie qui a mal tourné. Comment vous définiriez cette notion ?
Non, je ne suis pas aussi pessimiste que ça, j'y crois encore, mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans les villes, en tout cas les villes européennes, occidentales, il y a quelque chose qui s'est tari du côté, je reviens à cette idée de la vie de la rue, que moi je retrouve encore en Méditerranée. C'est pour ça aussi certainement que j'aime beaucoup ce coin-là.
Vous avez choisi la Grèce aussi.
Alors c'est pas pour idéaliser, mais c'est quand même vrai qu'encore aujourd'hui, vous mettez une chaise dans une rue à Naples ou à Palerme, il se passe des choses dans la rue, il y a des gens qui se croisent, qui n'ont pas le même métier, qui viennent pas des mêmes. Il y a encore une mixité sociale plus forte que dans nos villes un peu plus au nord. Et surtout, il y a le sentiment qu'on est dans la rue, pas uniquement en transit. On peut se poser un peu, on peut discuter. Moi, je crois beaucoup à ça.
Mais pourquoi cette différence ? Pourquoi ça a changé dans les villes du Nord ? Parce que pendant longtemps, justement, la rue, même à Paris, il se passait des choses.
Alors là, moi, je crois qu'il y a une triste réalité qui est celle de la valeur immobilière. À partir du moment où ça coûte si cher, ça trie qui va résider dans ces villes-là. Et donc, par exemple, les petits artisans, les petites boutiques, les petits cafés ne tiennent plus. Et donc, il y a toute une vie, justement, qui fait cette richesse-là qui disparaît ou qui est poussée aux périphéries ou en tout cas ailleurs. Et donc, on se retrouve très tristement, et sans l'avoir voulu d'ailleurs, personne n'a voulu ça, mais avec des rues qui se vident parce qu'elles sont simplement inaccessibles.
Jean-Baptiste Delamo, Laurent Godet, Audrey Plénet. Quand on vient, on va parler justement de la manière dont les utopies urbaines dégénèrent en dystopie. Mais d'abord, on écoute Miel de montagne et Girl Ultra, Mass Circuita. Jean-Baptiste Delamo, Laurent Godet, Audrey Plenet, le contrôle dans vos récits passe notamment par l'architecture. Chez Audrey Plenet, on en a parlé tout à l'heure, c'est le diapason, ce lien nanotechnologique qui assure l'harmonie mais brise aussi l'autonomie. Chez Laurent Godet, chez vous Laurent Godet, c'est la privatisation totale par Goldtex où même l'air est payant. Chez Jean-Baptiste Delamo, c'est la maison abandonnée qui semble digérer ses visiteurs et refléter leur peur. L'architecture urbaine est-elle en train de devenir un prolongement de notre propre système nerveux? Laurent Godet, moi j'ai l'impression que on est presque dans une métaphore des réseaux sociaux.
Bah, de fait, je pense que alors il y a quelque chose d'organique dans une ville. Ce que disaient tout à l'heure Jean-Baptiste et Audrey par rapport au fait que souvent des architectes prévoient des choses et puis en fait la vie joue ou déjoue ces choses-là. Donc effectivement, la grande place magnifique, elle reste totalement vide en permanence, alors que la petite impasse serrée, et ben c'est là que tous les gamins vont jouer au foot. C'est ça qui est organique. Heureusement. Donc moi, les villes que j'aime, c'est des villes qui ont encore ça. Ça se passe encore mieux quand il y a des collines, un port ou des choses comme ça, je trouve. Mais même les pauvres villes qui n'ont pas tout ça, oui, là, dans la dystopie, effectivement, on s'amuse quand même, parce qu'il faut... C'est très sinistre tout ce qu'on dit, mais il faut quand même bien dire que je crois que la dystopie est un jeu avec le lecteur. C'est d'essayer de proposer un miroir déformant, et donc pour créer une réaction. Nos dystopies envisagent par définition le pire, et la question du contrôle est un petit peu partout, mais on peut aussi se décontracter, et la vie est là pour déjouer tout ça.
Et quand on parle de ces structures de contrôle, on pense au pendant de tout ça qui est le refuge. Il n'y a pas de dystopie justement sans ces espaces aussi, ces espaces dans lesquels on se sent bien. J'avais envie de vous demander quels sont vos refuges à tous les trois, Jean-Baptiste Delamo.
Oh, moi, je vis aujourd'hui à la campagne et c'est vrai que la maison que j'habite est pour moi un vrai refuge. Je vis entouré d'animaux, etc. Et c'est vraiment l'espace préservé pour moi qui est presque en opposition avec l'effervescence de la ville, ce côté très épileptique comme ça, qui me plaît aussi, mais sur des durées très courtes. Et j'ai rapidement le besoin de retourner à ce rapport plus quotidien, au calme et à la nature environnante. Ouais.
Et vous, Audrey Plenet, votre refuge ?
Mon refuge, hein, c'est un espace très, 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 très réduit, qui est les bras de mes enfants, qui sont assez petits pour ne pas encore être dans toutes les questions des réseaux sociaux et de tout ça, tout ça. Donc, ils sont en fait voilà, très éloignés de ça, de ces questions de surveillance de masse, de territorialité, etc. C'est tout petits espaces dans lesquels je me réfugie. Ça ne veut pas dire que j'accepterais d'être dans un train avec une famille nombreuse, 5-6 enfants à côté. Hein, y a aussi, hein, voilà.
Et pour vous, Laurent Godet ?
C'est une bonne question, j'arrive pas à trouver de réponse à la question du refuge. Je crois qu'en fait, honnêtement, peut-être un petit coin du boulevard sur lequel je vis depuis maintenant près de 30 ans. Et notamment, ça passe sûrement aussi par quelques cafés que j'aime bien et dans lesquels je vais fréquemment. Le sentiment d'appartenance quand on est dans une grande ville, et c'est mon cas, je suis parisien, je suis désolé, mais je suis né à Paris et c'est j'aggrave mon cas. Je pense que le sentiment d'appartenance, il est compliqué en fait. Ça passe par certains endroits qui ont peut-être changé, mais c'est vrai que les cafés, par exemple, c'est important. Donc, ouais.
Vous écrivez dans les cafés ?
J'ai longtemps écrit, je ne le fais plus parce que maintenant j'ai besoin de plein de place avec tous mes livres, mais pendant très longtemps je faisais ça, ouais.
Est-ce que vous faites beaucoup de recherches ?
Ben oui.
Ah bon, ouais. Ben oui. C'est ça. Vos romans mettent en scène des villes qui ne sont plus de simples décors, mais justement des systèmes de contrôle. Lotissements clos, zones privatisées, cités tiges, caméras, algorithmes, contrôle accru. La ville, on a l'impression vraiment que la ville devient un espace de surveillance permanente. Est-ce que c'est quelque chose, Laurent Godet, qui vous inquiète ? Est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de caméras dans les rues, qu'on sacrifie aussi une part de notre liberté pour plus de sécurité ? Comment vous voyez les choses ?
Ça m'inquiète, mais il faut être honnête, c'est une servitude volontaire. C'est-à-dire que si ça n'avait rien à offrir du tout, le problème serait réglable facilement. Le problème, c'est que effectivement, la question de la sécurité est réconfortante. Et donc, on est tous un peu dans cette espèce de dilemme. Il y a la question de la surveillance et puis il y a la question du confort. Moi, je crois qu'on a aussi beaucoup à voir avec ça. On est tous tiraillés parce qu'on a tous dans nos poches un portable, tiraillés par cette espèce de dualité entre le confort et notre éthique personnelle. On sait qu'on a des principes Et puis, on sait aussi que des fois, c'est tellement confortable de commander de la nourriture ou un livre à 3 heures du matin de chez soi. Et on l'a fait. On sait que c'est mal. On sait qu'il ne faut pas le faire pour des tas de raisons qu'on connaît très bien et qui sont nos convictions politiques. Je dis ça pour montrer que, évidemment, ça offre toujours quelque chose. Et je crois qu'on est dans une sorte d'époque où la question de la soumission confortable est inquiétante.
C'est une soumission volontaire.
Volontaire et encore une fois qui amène quelque chose de fait. Donc c'est pour ça que c'est difficile de la renvoyer très très loin.
Et Audrey Plenet, cette question de la sécurité et de la liberté, qu'est-ce que vous choisissez, vous ?
Pour rejoindre Laurent, c'est clairement quelque chose qui m'inquiète énormément par le côté très pernicieux en fait de cette mise en place. On a bien évidemment tout ce qui est du service individuel qui repose sur nos données personnelles, donc de se faire livrer de la nourriture ou de prendre Uber et au final on peut tracer absolument tous nos déplacements. Et il y a aussi des choses qui sont prévues pour les villes de demain qui sont également sur une question de confort. On va régler tout ce qui est embouteillage dans la ville en installant différents systèmes de contrôle au niveau des feux, au niveau des voitures, au niveau des places de parking. Vous saurez quand vous vous déplacez la place de parking qui vous attend à tel endroit où vous allez, etc. Donc on met en place plein de choses qui ont l'air très bien pour améliorer la fluidité des villes, la gestion des déchets, de l'énergie. Quand vous arrivez sous un lampadaire, il va s'éclairer. Comme ça, on pourra réduire un peu la consommation des villes en éclairage. Et tout ça, vraiment, ça part de bonnes intentions, de fluidifier les villes, d'apporter tout ce qui est smart cities, etc. Moi, en tant qu'écrivaine de SF, je me dis, il y a deux penchants terribles sur l'humanité, la marchandisation en fait de tout ça et le fait d'utiliser après pour des projets politiques peut-être différents. Et par exemple, quand
en fait, on a l'impression que ça se fait toujours au détriment d'une partie de la population.
Oui, parce que c'est des choses qui sont inhérente à l'humanité, c'est comme ça qu'on fonctionne aussi. On classe les gens, on classe les choses, on marchandise, on met une valeur monétaire derrière. Donc qui pourra payer un peu plus cher pour avoir le droit de se déplacer à certaines horaires alors que d'autres devront rester à leur bureau en attendant que peut-être leur petit voyant sur leur téléphone passe au vert pour dire vous avez le droit de vous déplacer maintenant. Et en fait tout ça déjà c'est des choses qui auront été faites à la base parce qu'on aura voulu le service pour des bonnes intentions. Et au final, y a plein de dérives qui amènent à un renoncement de nos libertés de nous déplacer et de nos libertés aussi de ne pas être observés, de ne pas être traqués, de ne pas être suivis, de ne pas être connus parfaitement dans nos habitudes de consommation et de vie par des systèmes informatiques dont on ne sait pas trop qui est derrière. Voilà.
Jean-Baptiste Delamo, cette question de la liberté, elle est intéressante parce que on a l'impression qu'on est un peu dans une dystopie à la Zamiatine. On vous obligera, on vous forcera à être libre.
Alors moi, le lotissement tel que je le dépeins dans ces années 90, c'était un territoire très ouvert, surtout en particulier pour nous, les enfants, qui pouvions circuler très librement et échapper très facilement aussi au contrôle de nos parents. Et d'ailleurs, qui était beaucoup plus détendu à notre égard. Oui. Les parents sortaient sur le seuil à l'heure du dîner pour gueuler le nom de leur gamin qui devait rentrer fissa pour venir manger. Mais sinon, ils ignoraient totalement où on était. Et beaucoup de ces lotissements-là aussi sont devenus des zones beaucoup plus sécurisées, avec des portes d'accès, éventuellement des caméras, et aussi quelque chose qui apparaît, qui était plus présent aux États-Unis, mais les organisations entre voisins pour faire des rondes de surveillance, etc., dans les quartiers. Ça, c'était des choses qu'on ne connaissait pas du tout, évidemment, dans les années de mon adolescence, mais qui modifient sensiblement aussi ces territoires et ces espaces-là.
Et paradoxalement, alors que la sécurité a progressé, effectivement, on ne voit plus tellement d'enfants dans les centres-villes.
Mais je ne sais pas quelle est l'expérience des enfants aujourd'hui dans ces lotissements. J'ai l'impression qu'ils ont vraisemblablement perdu une part de liberté qu'on pouvait avoir, une faculté de découvrir aussi ce territoire et de l'investir par des histoires. Parce que nous, déjà, gamins, on crée des fictions en permanence, on inventait des choses. Et sans doute que ça aussi, ce possible-là, c'est inévitablement réduit. Dès qu'on impose des frontières physiques ou de la vidéosurveillance, etc., on réduit considérablement la possibilité de l'imaginaire aussi.
Et plus on surveille, plus paradoxalement, on génère des peurs, Laurent Godet.
Oui, oui, je me retrouve tout à fait dans ce que dit Jean-Baptiste. Je me souviens aussi, alors c'est pas pour faire le vieux combattant, mais effectivement, une enfance dans les années 70, ouais, effectivement, on jouait sur la place du marché, dans les rues de Paris, jusqu'à 7h, 8h moins le quart, 8h, on grattait un petit peu, et on disait la place du marché aux parents, mais en fait, si on changeait de 2-3 rues, il y avait personne pour nous rattraper par le col de la chemise. Et pareil, ça va faire bizarre aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent et qui sont à la campagne ou dans des petits villages, mais le métro était un terrain de jeu. Moi, je me souviens d'avoir fait des courses-poursuites avec les copains dans les métros. On changeait au dernier moment de rame, on essayait de se perdre dans les couloirs. Donc il y avait une sorte d'innocence urbaine qui n'existe effectivement de fait, je pense, plus du tout. Elle se joue peut-être ailleurs, hein. Je ne suis pas en train de dire que les gamins d'aujourd'hui vivent une enfance atroce, mais en tout cas, encore une fois, la rue s'est asséchée, je crois, oui.
Sur la question de la liberté, est-ce que vous accepteriez de nous lire un extrait de votre dernier roman, Zem ?
Mais très volontiers. Nous nous sommes perdus parce qu'ils ont acheté la graisse et l'ont vendue par bout. Ils en ont fait une poubelle. Et nous sommes tous devenus des apatrides, ou plutôt des silariés, comme ils disent. Citoyens salariés de Goltex, qui s'occupent de nous, s'occupent de tout. Chacun a vécu une vie loin de l'autre. Mais ils ne peuvent pas décider de ce qui a le plus d'importance. Si je dis que ce fut toi, Léna, alors je peux accrocher le monde à ton nom et le faire se balancer comme à un clou.
Face à ces villes qui cherchent la transparence, l'harmonie, est-ce que la littérature n'est pas le dernier refuge, justement, à l'imprévu et au désordre, Audrey Plenet ?
Alors, je ne sais pas si c'est le dernier refuge, hein, parce que quand on voit les villes qui sont décrites en science-fiction, ce n'est pas toujours joyeux. Ça a parfois une fonction d'alerte, comme je disais, en poussant les curseurs très loin, en montrant voilà, comment ça pourrait mal se passer, et voilà, en alertant un peu les personnes. C'est aussi pour montrer des alternatives qui sont possibles, peut-être un peu plus positives, ramener aussi les responsabilités où elles sont, finalement, qui sont des responsabilités sociétales, politiques, en fait, donc des choix de société qu'on peut faire aussi. Hein.
Ce que vous dites, c'est que la littérature, pour vous, a un rôle politique.
Elle peut. Ce n'est pas une obligation. Elle peut. Ça dépend du récit qu'on veut mettre. Mais oui, dès qu'on est de toute façon sur l'organisation de la cité, on est sur ces questions-là, en fait.
En tout cas, vous, en science-fiction, c'est ce qui vous intéresse.
Oui, alors moi, c'est ce qui m'intéresse dans la science-fiction que j'écris, même si j'essaye également d'écrire des récits qui sont un peu fun, avec plus de l'aventure et des côtés assez fun, et même également un regard sur tout simplement des trajectoires de personnages, des récits intimes de vie. Hein. On n'est pas toujours sur la grosse sociologie du futur et de la géopolitique de demain. Mais ça pourrait avoir cette fonction-là, oui, tout à fait.
Quel rôle, Laurent Godet, peut jouer la littérature face à ce qu'on a décrit depuis tout à l'heure, à savoir cette transparence à outrance ?
Ben, je pense alors plein de choses, certainement une invitation à la réflexion, à faire tourner toutes ces choses-là dans la conscience de chacun pour voir ce qu'il en pense, ne serait-ce que ça, c'est quand même la première étape, s'interroger sur tout ça. Ça peut être aussi plus combatif, effectivement, mais je pense aussi, et c'est une troisième voie qu'il ne faut pas oublier, je pense à Nadja de Breton, qui est un livre très urbain. Ça commence sur la description de Paris, les rues de Paris, on est vraiment dans la ville, et puis tout d'un coup surgit cette femme. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Nadja est un livre politique, c'est un livre surréaliste, c'est un livre, mais en même temps qui invite quand même à poser une question sur qu'est-ce que c'est qu'un petit caillou dans ce grand système. Nadja est un petit caillou, elle est folle, elle est belle, elle est inattendue. Ça raconte la rencontre, c'est-à-dire en fait la stupéfaction, au sens vraiment propre du terme. C'est pas confortable, c'est pas agréable, ça arrête les choses autour de vous. Moi, j'aurais tendance à penser que la littérature peut aussi être de ce côté-là. Je parle pas de mes livres, hein, mais d'une manière générale, c'est presque ce que je cherche en tant que lecteur, qu'on me montre le monde sous un autre jour et que ça, d'une manière ou d'une autre, que ça questionne l'ordre. C'est aussi pour ça certainement que la question de la folie dans nos grandes villes, elle est très intéressante, parce que c'est la folie qui vient aussi souligner à quel point l'ordre lui-même parfois devient délirant.
Jean-Baptiste Delamo, ça doit vous parler, ce que vient de dire Laurent Godet.
Ouais, et en même temps, je me dis que d'un, je n'ai vraiment aucune expertise sur le sujet, parce qu'à chaque fois que j'ai tenté de représenter les livres en littérature, je me suis aperçu, les villes, pardon, en littérature, je me suis aperçu que j'étais incapable de restituer les villes contemporaines. Donc j'ai toujours choisi, par exemple, j'ai écrit sur le Paris du XVIIIe siècle, j'ai écrit sur la Havane, j'ai choisi finalement d'essayer de déplacer mon regard, et peut-être que c'est là que la littérature
un rôle à jouer, c'est de pouvoir réinvestir la ville par la poésie, et en particulier par la multitude, la multiplicité des regards et des sensations. C'est montrer combien ces espaces-là peuvent être complexes, nourris par des histoires, nourris par des subjectivités, et peut-être que la langue a ce pouvoir-là de les réinvestir et de les dévoiler différemment.
Et justement, vous avez choisi quand même une maison abandonnée dans votre livre. Quel rôle elle joue dans tout ça ?
Alors, dans le livre, la maison abandonnée, pour moi, c'était déjà le choix de choisir une architecture qui est a priori représentée comme dénuée de tout intérêt, à la fois esthétique et même narratif. Le pavillon de banlieue, c'est vraiment en architecture ce qu'il y a de plus inintéressant. Ces pavillons qui sont répétés de manière tout à fait identique. Et il se trouve qu'en fiction française, ces zones-là ont souvent été laissées là aussi à la marge, alors que les anglo-saxons ont beaucoup représenté la banlieue résidentielle et l'ont justement utilisée pour essayer de montrer quelque chose de l'American Way of Life, de dénoncer quelque chose de ce qui peut dysfonctionner en fait dans ces espaces-là. Et donc voilà, j'ai essayé de rendre hommage à la mythologie de la maison hantée en choisissant peut-être l'antithèse du manoir gothique, du château hanté, qui était ce petit pavillon qui sert de révélateur à ce qu'ont été, je crois, les années 90.
Vous faites une transition parfaite sur des questions peut-être un peu plus littéraires. Vous revendiquez justement l'influence de Stephen King, du cinéma aussi d'horreur des années 80. Je me suis demandé si aller du côté de l'horrifique en collection blanche chez Gallimard, est-ce que ça a été, c'est une question que vous vous êtes posée, est-ce que vous en avez discuté avec votre éditeur tout de suite? Est-ce que quand on change de genre comme ça, c'est vraiment une question qu'on anticipe, on se pose?
Oui, j'en ai évidemment parlé avec mon éditeur, même si pour moi, j'avais pas la sensation de faire un pas de côté. Je savais que j'allais continuer à explorer mes obsessions, les thématiques qui traversent mon œuvre, sous des atours et dans un paysage finalement narratif différent. Et mon éditeur, Jean-Marie Laclaftine, m'a très rapidement rassuré en me disant « Mais de toute façon, tu vas écrire avec ce que tu es, tu feras un livre de Delamo et tes lecteurs s'y retrouveront. » Mais c'était important pour moi de rendre hommage à cette littérature-là parce qu'elle a eu une vraie importance dans la façon dont je me suis construit en tant qu'adolescent et en tant que lecteur. Et que je crois que le genre reste un espace de révélateur, en fait, qui nous permet parfois de toucher à des choses que le réalisme ne permettrait pas d'atteindre.
Des peaux. On attendait que la mort nous froisse. Elle nous a pris les beaux et les drôles. On the road again, again. On the road again, again. Ami, sais-tu que les mots d'amour voyagent mal de nos jours. Tu partiras encore plus lourd. On the road again, again. 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 On the road again.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au livre, etc. en public, à l'occasion des Nuits de la lecture, c'était Bernard Lavillier, On the Road Again, et nous sommes toujours en compagnie des écrivains Jean-Baptiste Delamo, Laurent Godet et Audrey Plénet. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS La Première, RTBF La Première, Au livre, etc. Lilia Hassen.
Que permet justement la littérature de genre, Audrey Plénet ?
La science-fiction et l'anticipation en général, c'est avant tout questionner comment on fait société et qu'est-ce que c'est que juste d'être humain quand on change d'autres variables, d'autres paradigmes, notamment qu'est-ce qu'on peut au niveau technologique faire, communiquer autrement, vivre autrement, se déplacer autrement, être ailleurs, etc. Donc avant tout, c'est des récits qui en fait réinterrogent l'humain au niveau individuel et au niveau collectif. C'est ça, moi, qui me fait le plus travailler, en fait. La science-fiction, juste, va être une façon de mettre en image des travaux prospectifs, en fait.
Laurent Godet, la question du genre, c'est une question que vous vous posez ou c'est anecdotique, vous avez une idée, et peu importe, ensuite...
Alors, c'est vrai que la question du genre, pour Chien 51 et Zem, le diptyque, je me la suis posée, parce que j'avais envie d'anticipation et de polar, et que ce sont deux genres connus, reconnus, et dont je ne suis pas du tout un spécialiste. C'est-à-dire que, alors, j'ai honte de le dire, mais moi, je ne suis pas un lecteur de polar, ni de SF. Donc, le projet n'a jamais été de devenir un auteur de SF pendant deux livres. C'est plutôt, effectivement, d'attirer sur mon territoire d'écriture des choses qui appartiennent à ces genres-là, qui sont absolument centrales dans ces genres-là, et qui, peut-être, vont m'apprendre des choses. Et puis, je crois aussi qu'il y a la question du détour. C'est-à-dire que, moi, faire un petit pas de côté du côté de l'anticipation m'a permis d'aborder peut-être justement les questions politiques de manière... j'aurais pas pu le faire avec un roman qui se passe aujourd'hui. Je serais très démuni à me dire, voilà, invente une histoire qui se passe aujourd'hui en France et qui parle de politique. Je ne sais pas faire ça. Chien 51 et Zem m'a permis de parler de politique, mais par le détour de l'anticipation. Et donc voilà, on fait aussi avec ses impuissances d'une certaine manière.
Vous aviez envie de SF et de polar, vous avez envie d'explorer d'autres genres ?
Ah ben moi, la vie est courte et j'ai envie de faire le plus possible, donc pourquoi pas.
Vous pourriez avoir envie de creuser toujours au même endroit, vous, c'est vraiment, vous essayez
non,
de
Non,
de
mais non, depuis le début, c'est vrai que moi j'ai commencé par le théâtre, et puis je continue à écrire théâtre, roman. Je trouve beaucoup de plaisir dans l'alternance comme ça par rapport à des formes différentes, c'est pas tout à fait les mêmes outils, et en même temps, honnêtement, c'est le même fleuve, quoi. C'est-à-dire que j'aimerais bien, idéalement, que tous mes livres soient rangés les uns à côté des autres dans les rayons des librairies. C'est pas ce qui arrive, mais cette question du compartiment, elle me déplaît un peu, honnêtement.
Jean-Baptiste Delamo, vos livres sont rangés les uns à côté des autres ?
Oui, j'aime bien aussi cette perspective de décloisonner les genres. Alors certes, on va puiser dans le genre, mais je pense qu'avant tout, il y a quelque chose qui fait littérature et que c'est ça qui doit prévaloir. À titre personnel, je ne me pose jamais la question. Ce que je sais, c'est que pour avoir du désir pour un livre, j'ai besoin de savoir que je vais pouvoir investir des espaces imaginaires et narratifs différents. Et je crois qu'on est aussi des générations qui avons grandi avec
avec le cinéma, avec la série télé, avec la bande dessinée, éventuellement avec le manga, et qu'on est nourri de ces influences multiples, et c'est normal et c'est sain aussi qu'on se les approprie et qu'on les visite différemment.
Et dans La Nuit Ravagée, qu'est-ce qui a été premier ?
À l'origine du projet, il y avait ce désir déjà de parler de ce qu'ont été les années 90 pour moi, dans ce territoire du sud-ouest de la France et dans cette zone du lotissement. Et très rapidement, il y a eu le souvenir de cette maison dont je vous avais déjà parlé dans une précédente émission, mais qui était une maison abandonnée de mon lotissement sur laquelle nous, les gamins, projetions comme ça tout un tas d'histoires. Et très rapidement, j'ai compris que pour restituer vraiment quelque chose de l'essence, pas de la réalité de ce qu'ont été les années 90 pour moi, mais de l'essence, de la façon dont je les ai perçus, il fallait inévitablement que j'aie recours au genre.
Alors j'aimerais qu'on dise un petit mot de l'intelligence artificielle. Audrey Plénet, la PITI dans votre livre est une sorte de d'IA, est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui, on est sur des modèles prédictifs en fait, dans lesquels l'humanité se réfugie pour essayer de calmer son angoisse existentielle, de ne pas savoir comment faire des choix à un moment où en fait il y a tellement de possibilités de choix que ça amène en fait, comme je disais, beaucoup d'angoisse, et on cherche à se rassurer à travers ces modèles prédictifs en fait. Ouais.
Est-ce que vous pouvez juste nous lire ce que vous dites justement, ce que dit la PITI ?
Nous accordons une valeur immense à la vie humaine, nous voyons le potentiel, c'est pourquoi nous vous servons. Les prédictions, les destinées, nous choisissons les évolutions, nous n'avons pas le choix, notre existence est sacrée.
Est-ce que vous pensez, Audrey Plénet, que l'intelligence artificielle va pouvoir remplacer les romanciers ?
Alors, malheureusement, c'est des choses qui sont déjà un peu en train de se produire, parce qu'on a vu que des modèles des large language models, j'ai du mal à dire intelligence artificielle parce que j'aime pas utiliser le mot intelligence en fait pour ces LLM, mais on voit qu'il y a des LLM déjà qui remplacent des traducteurs. Donc dans le monde du livre, c'est les premiers qu'on a vu être remplacés, et également les illustrateurs, les correcteurs, les maquettistes. On a aujourd'hui, oui, des romans qui sont écrits par des LLM. Il y a des éditeurs qui ferment...
De très mauvais romans pour l'instant.
Voilà. On a des éditeurs en fait qui ferment leur soumission de manuscrits puisqu'ils reçoivent de plus en plus de ces romans, donc ils sont obligés de fermer les soumissions de manuscrits.
Oui, c'est plutôt ça qui est quand même inquiétant.
Ce qui est hyper inquiétant parce qu'au final, ils vont se tourner vers des auteurs peut-être qu'ils publient déjà. Donc ça va en fait amener à une production qui va peut-être rester sur un même pool d'auteurs humains. Et au final, des nouveaux auteurs auront peut-être du mal à soumettre un premier manuscrit à un éditeur parce qu'il y aura toujours soit le risque que ce soit un LLM ou la suspicion qu'il a peut-être utilisé. Et donc voilà, va falloir comment prouver en fait que c'est une production faite par un humain.
Jean-Baptiste Delamo, ça vous inquiète ?
Enfin, je pense que les IA de la génération de ChatGPT, etc., ne représentent pas encore une menace réelle pour la littérature. Alors pour la traduction, effectivement, ça commence. Ce que j'ai pu voir de la fiction générée par ces générations d'IA me semble pas être extrêmement inquiétant parce qu'on décèle très vite les gimmicks justement de ce système auto-référencé, etc. En revanche, semble-t-il que de nouvelles générations d'IA approchent. Et là, c'est vrai que pour nous tous, c'est l'inconnu. On ne sait pas du tout comment est-ce qu'on va réussir à préserver la singularité de notre littérature humaine. Et ça va sans doute être un défi pour nous tous aussi de comprendre qu'est-ce qui continuera à faire notre singularité.
Laurent Godet ?
Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jean-Baptiste. Pour l'instant, je ne suis pas hyper inquiet sur la fiction de ce que j'ai vu. Pareil, je ne connais pas tout, mais c'est vrai que ça va à une telle vitesse qu'il est bien impossible de dire de quoi sera fait demain de ce point de vue-là. J'ai quand même l'impression que tout système nourrit son contre-système et qu'on s'adaptera aussi. C'est-à-dire que, en fait, ce que l'IA, là, aujourd'hui, pose, c'est la question du récit formaté. Mais il existe depuis longtemps, le récit formaté. Alors, je ne veux pas dézinguer le cinéma, mais dans le monde du cinéma, il y a une espèce de calibre du récit sur les scénarios. On vous dit qu'à la 7e minute il doit se passer ça, sinon vraiment ça va pas assez vite. Donc pour des choses, des objets construits comme ça, je pense que l'IA évidemment a un boulevard. Il y a qu'à reproduire le système. Pour ce qui est de la singularité, de l'apparition d'une voix jamais entendue, de l'originalité, on est encore un petit peu loin. Après, moi je reste optimiste. Je pense que ce qu'on vient écouter quand on va au théâtre ou quand on ouvre un livre, c'est justement le surgissement de quelque quelque chose de ne pas entendu, alors dit comme ça, ça paraît, c'est rare, hein, mais et ben voilà, on s'adaptera, on ira balancer nos textes dans la rue, on fera des performances, et puis on continuera aussi à faire des livres, mais des livres qui seront pensés en opposition à ça, et donc qui iront peut-être chercher dans des endroits différents.
Le risque, c'est peut-être justement que toute une génération qui sera biberonnée par l'intelligence artificielle, est-ce que cette génération-là sera encore capable de produire une voix singulière ?
Il faut y croire. On peut aussi retourner la chose en te disant que cette génération-là, le jour où elle entendra une voix singulière, sera sidérée et donc sera totalement enthousiaste. Ça peut aussi marcher dans ce sens-là.
Vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite pour vos conseils de lecture. Mais d'abord, on écoute Diziz et Théodora, Mélodrama.
Blessé, baisé, VGT dans le TGV, dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel, ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle, tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi, tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. Ça fait si mal, oh, que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on se raccompagne.
Poche pleine, surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime en homme pas deux. Tu n'en as plus d'hiver. Je suis dans un étoile mais je repense à hier. Galerie RER. C'est ton pied, c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air? Je suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes bras. J'ai jamais vraiment été ta valentine. Je suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes bras. J'ai jamais vraiment été ta valentine.
C'est tout à ton bonheur de me vouloir du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un coup dans ce mélodrame. Ça fait si mal, donc ça fait pas longtemps. Que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta valentine.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission, etc. Nous sommes toujours en compagnie des romanciers Jean-Baptiste Delamo, Laurent Godet et Audrey Plenet.
Au livre, etc. Lilia Hassen.
Avant de se quitter, et parce qu'on est ici au Grand Contrôle, à l'occasion des Nuits de la Lecture, un événement qui vise à encourager la lecture et notamment des plus jeunes, j'aimerais que vous nous donniez chacun un conseil lecture, un livre que vous offririez à quelqu'un qui n'aime pas lire. Jean-Baptiste Delamo.
J'ai souvent offert La Maison d'Haleine de William Goyen, un livre qui est aujourd'hui publié dans l'Imaginaire chez Gallimard, et qui est un texte qui s'aventure un peu sur le terrain justement d'une langue très innovante à la Faulkner, extrêmement sensorielle et poétique, et qui ne ressemble à rien d'autre.
Ah, alors, on parlait des voix singulières, voilà.
Ça c'est quelque chose que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui aurait été absolument incapable de produire, et de loin.
Est-ce que vous pourriez me redonner le titre ?
La Maison d'Haleine, de William Goyen.
Encore une maison.
Ouais.
Et vous, Audrey Plenet ?
trop semblable à l'éclair de Ada Palmer. Donc c'est le premier tome d'une saga publiée en France en 5 tomes où elle décrit le futur dans 250 ans, mais dans tous les aspects politiques, spirituels, technologiques, au niveau de l'éducation, enfin de tout, dans une langue incroyable, en se basant énormément sur des philosophes français, Voltaire, sur Hobbes aussi en anglais, enfin énormément de bagages. C'est absolument sublime et c'est également sublime parce que c'est très complet comme vision de l'avenir en décrivant toutes les crises entre aujourd'hui et le futur qu'elle décrit. Donc moi, c'est quelque chose qui m'avait énormément inspiré. Après, non, c'est considéré comme de la SF ardue, donc je ne suis pas sûre de vraiment
c'est,
le
c'est pas grave, c'est un bon conseil, je suis curieuse.
en premier roman, première approche, pour montrer une SF très très humaine, je dirais Des fleurs pour Algernon de Keyes, qui est voilà, sur juste une petite évolution technologique et comment ça impacte une personne, et c'est un récit très intime de cette personne. Donc, c'est peut-être plus abordable.
Et pour vous, Laurent Godet?
Alors moi, je vais vous conseiller une pièce de théâtre parce que je sens déjà que tout le monde se dit « Ah oui, mais le théâtre, j'aime pas lire. » Il faut lire du théâtre. C'est bien aussi de lire du théâtre. Et je pense notamment à un texte qui, pour moi, a été hyper important, qui est « Dans la solitude des champs de coton » de Bernard-Marie Coltès. Quand je suis tombé jeune homme sur ce texte-là, j'ai eu l'impression que quelqu'un ouvrait la fenêtre. C'est un dialogue entre un dealer et un client. Et immédiatement, la langue déjoue justement ce que vous pouvez avoir d'emblée imaginé. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un deal réaliste, on est dans un milieu urbain mais poétique, et la langue de Coltès, c'est du Marivaux quoi, ou du Racine, je sais pas, il y a une syntaxe hallucinante, et là aussi je pense pas que l'intelligence artificielle en soit là pour l'instant, donc
soit capable de,
ouais,
de
non pas tout de suite
puisqu'on est aux nuits de la lecture. Je vais vous poser une question très simple mais dont la réponse n'est pas forcément évidente. Pourquoi il faut lire, pourquoi il faut encore lire aujourd'hui? Jean-Baptiste Delamo.
J'ai entendu récemment une interview de Anne Kang, qui a remporté donc le prix Nobel, et qui disait que pour elle, les livres, c'était une façon de dissoudre ses propres frontières physiques. C'est-à-dire qu'à force d'expérimenter des points de vue subjectifs à travers les livres, elle avait le sentiment comme ça de se libérer de sa propre peau, de ses propres limites physiques. Et je pense que le livre, ça reste encore aujourd'hui peut-être le seul moyen inventé par l'homme d'expérimenter à ce point une multitude d'autres existences, d'autres expériences, d'autres points de vue. Et c'est quand même ce qu'on a peut-être de plus précieux.
Audrey Plenet.
Lire, c'est vivre 1000 fois. Ça doit être la vraie citation de Voltaire. Et en fait, c'est ça. Il y a le côté de dissolution que j'aime beaucoup qui vient d'être évoqué, mais également de multiplication. On multiplie les existences. On a ce foisonnement de vie, en fait, qui vient en nous dans tous ces points de vue. Ça développe aussi l'empathie. Ça développe énormément de choses. Ça permet de mettre à distance également nos propres sentiments, notre propre vécu, de mettre en perspective. Et voilà, ça enrichit intérieurement.
Laurent Godet, à quoi ça sert de lire ?
Il faut lire parce que d'abord, lire, c'est sexy. Ensuite, parce que lire... à quel autre endroit dans nos vies, sincèrement, on est à ce point-là face à une autre âme, je n'ai pas d'autre mot, quasiment à nu, c'est-à-dire en toute sincérité. Il n'y en a pas tellement. Alors, pour les plus chanceux d'entre nous, lors d'une nuit d'amitié ou d'amour, où on se parle vraiment, mais dans les livres, c'est ça, normalement. Et puis, il y a une autre raison encore, c'est que je crois très sincèrement que l'homme a inventé l'éternité avec les livres. Et on le sous-estime tout le temps, mais c'est quand même fou. Vous ouvrez l'Iliade, vous entendez Homère vous parler, ou pareil avec Racine, avec Voltaire. La distance du temps est abolie et on est face à des objets d'éternité. Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où on peut avoir ça.
Trois jolies définitions. Merci beaucoup à tous les trois. Jean-Baptiste Delamo, Laurent Godet et Audrey Plenet. Merci d'avoir partagé avec nous ces visions urbaines qui, sous couvert de fiction, nous parlent si précisément d'aujourd'hui. Et merci au public de Ground Control. C'est la fin de cette émission. Je ne peux que recommander vos livres. La nuit ravagée de Jean-Baptiste Delamo, publié chez Gallimard, une archéologie de nos secrets d'adolescence et des monstres qui rôdent dans les impasses de nos mémoires. Zem de Laurent Godet aux éditions Actes Sud, un grand roman sur la privatisation de nos vies et la quête d'un horizon, par-delà les dômes climatiques. Et enfin, Syntonia d'Audrey Plenet aux éditions du Bélial, un petit bijou de science-fiction qui interroge ce qui nous reste de liberté face au déterminisme biologique et aux oracles algorithmiques. Merci au Centre National du Livre et à Simon Rossi, fondateur de la revue trimestrielle industriel Sphère qui a imaginé cette rencontre. Merci enfin à mon équipe, Lilian Alloum à la réalisation, Sybille Clamence à la technique, Estelle Gap et Etel Alzial à la programmation. Je rappelle que Livre, etc. est une coproduction de la RTBF, la RTS et Radio-Canada. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.